Bonsoir, bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau cours de Biblos. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir au début de cette année 2022. J'étais en train de réfléchir parce que chaque année on se trompe d'une année. Et puis ben, ça nous fait très plaisir de vous accueillir pour la suite de ce cours. J'espère que vous avez bien commencé cette année, malgré ici et là des restrictions. On pense particulièrement à nos frères et sœurs du Québec qui n'ont plus la possibilité de se réunir physiquement suite aux annonces du gouvernement provincial. Donc voilà, c'est vrai qu'on est de nouveau dans une phase peut-être un petit peu difficile et ça fait plaisir, si pas de se retrouver physiquement, au moins de pouvoir le faire ensemble par le moyen du logiciel Zoom. Et pour poursuivre l'étude du livre de Daniel. Durant le temps des fêtes, j'ai profité de terminer les envois pour les livres sur la prophétie, sur le plan de Dieu pour Israël et l'Église qu'a écrit Gilles. Donc, vous devriez le recevoir prochainement, ceux qui ont droit au livre. Et puis tous les autres, respectivement ceux qui ont payé leur contribution à Biblos, mais qui n'ont pas reçu le livre, c'est soit que vous venez de remplir le fichier pour recevoir le livre et vous venez seulement de nous donner votre adresse juste avant Noël, ou alors c'est un oubli de notre part. Et si c'est un oubli de notre part, merci de nous écrire un petit email pour que vous puissiez recevoir cet excellent livre sur le plan de Dieu pour Israël et l'Église. Donc voilà, c'est avec ces quelques mots d'introduction que je vais laisser la parole à Gilles qui va poursuivre pour le reste de la soirée en te remerciant, Gilles, d'être une nouvelle fois ponctuel, précis et avec nous ce soir.
C'est un plaisir. Et puis, je vous souhaite à tous une belle année dans le Seigneur cette année, en espérant que ce soit l'année de son retour, hein. Qui sait, ce serait vraiment merveilleux. C'est vrai qu'il y a des nouvelles règles de confinement ici au Québec. On peut ni visiter personne, ni recevoir personne, pas même dans des sortes de bulles familiales ou quoi que ce soit, mais. Malgré tout, ben, on a encore le privilège de pouvoir avoir cette communion à travers le moyen de Zoom. Et puis, je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour ça. Et prier aussi pour le Canada qui vient de passer une nouvelle loi qui probablement causera tôt ou tard des difficultés importantes à l'Église de Jésus-Christ concernant la fameuse loi sur l'identité sexuelle ici au Canada, où c'est criminel maintenant de parler de théorie de conversion. Alors voilà, gardez cela dans vos prières parce que je sens que tôt ou tard, l'Église au Canada va commencer à subir une pression jamais connue jusqu'à aujourd'hui. On est ensemble pour poursuivre le cours sur Daniel et puis nous sommes maintenant au chapitre 9. Et puis, dans vos notes de cours, vous pouvez voir la structure, hein, un peu comme on fait à l'habitude, voir qu'on est dans la deuxième partie du livre, dans les visions de Daniel, on est au point C, la prière de Daniel et la vision des 70 semaines, des 70 semaines. Et puis, le plan du chapitre 9 vous est donné très brièvement. C'est en deux sections ici, la prière de confession de Daniel, ce sont les 19 premiers versets, et ensuite la vision des 70 semaines. Dans les versets 20 à 27. Maintenant, comme j'ai pris un peu l'habitude pour certains chapitres, c'est ce que je veux faire aussi dans ce chapitre-ci, dans le chapitre 9, lire lentement, verset par verset ou section par section, ce chapitre et apporter quelques commentaires qui ont pour but d'éclairer un peu le sens de certains mots ou certaines expressions. Et on traverse comme ça le chapitre 9 et les détails seront surtout dans la première portion. Et par la suite, ben, nous allons revenir au syllabus et au plan de cours pour regarder les sections où il y a des titres principaux, là, et on pourra ajouter quelques commentaires aussi à ce moment-là. Et puis, je ferai aussi référence là, de façon exceptionnelle dans ce cours-ci aujourd'hui. À la rédaction de mon livre sur le plan de Dieu pour Israël et l'Église, dont Nathanaël vous a parlé il y a quelques instants, parce qu'il y a un chapitre dans lequel je traite en détail de ce chapitre 9 de Daniel, eh bien, plutôt que de réinventer la roue ou dire les choses simplement autrement, je vais me référer à cet ouvrage parce que les notes sont assez détaillées quand même dans cette partie-là qui traite du chapitre 9 de Daniel. Mais avant de lire, j'aimerais entrer dans un moment de prière avec vous, si vous voulez bien. Prions ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole et puis pour l'accès que nous avons à toi dans la prière. Père, nous voyons ces deux aspects-là de privilège pour le croyant de lire et de prier dans ce chapitre 9, alors que Daniel, par la lecture des livres de l'Ancien Testament, en particulier de Jérémie, a eu une compréhension de ce qui se passait dans sa propre époque, dans son propre temps à lui, et il s'est tourné vers toi en prière. Puis c'est le même privilège qui est pour nous aujourd'hui, Seigneur, c'est-à-dire de pouvoir lire ta parole, être formé dans notre vision du monde par les Écritures et avoir le même privilège de venir devant toi dans la prière. Notre Dieu, parle à nos cœurs aujourd'hui, fais-nous du bien, fais que ce cours-là soit plus qu'un moment de connaissance intellectuelle, mais que ce soit vraiment un affermissement de la foi, un encouragement à te servir davantage et mieux. Et qu'en toute chose, Seigneur, l'image de Christ soit formée en nous à travers les moments que nous passons ensemble dans ta parole. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que nous prions ainsi. Amen. Alors, si vous prenez vos Bibles, et puis j'utiliserai aussi le texte de Darby pour progresser à travers ce chapitre 9 de Daniel, eh bien, nous allons lire les versets et apporter quelques commentaires sur ce texte-là, ce chapitre-là, d'une façon générale au départ. Verset 1, Daniel 9, verset 1 nous dit ceci, « La première année de Darius, fils d'Assuérus de la semence des Mèdes, qui fut fait roi sur le royaume des Chaldéens. » Déjà, là, on revient à cette question de l'identité de Darius. Vous vous rappelez certainement, on a eu des discussions à ce sujet dans les chapitres précédents, à savoir qui est ce fameux Darius, est-ce qu'il correspond à Cyrus le Perse ou alors c'est quelqu'un d'autre? Il est clairement identifié de la race des Mèdes dans deux passages du livre de Daniel. Et puis, ça a amené les commentateurs à s'exprimer de façon différente. Et puis, j'ai eu même de mémoire une question à ce sujet à laquelle j'ai apporté une réponse déjà. Mais entre-temps, en arrivant sur ce verset-là, j'ai poussé un petit peu plus des lectures de commentaires pour essayer de voir de quelle façon on pourrait arriver vraiment à l'identifier. Et ce n'est pas possible, dans le sens où il reste encore quelques hypothèses qui, chacune, ont leur valeur et leur poids. Donc, on ne peut pas vraiment prendre une décision finale, je pense pas en tout cas, pas à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui sur l'identité de Darius. Pardon. J'aime beaucoup, par contre, ce que le commentaire biblique du chercheur fait. D'ailleurs, ce commentaire-là, je fais une parenthèse, il fait souvent cela, c'est-à-dire qu'il nous offre parfois plusieurs interprétations possibles et va en général nous donner sa préférence. Donc, c'est un commentaire qui est intègre dans le sens où il admet qu'il peut y avoir des interprétations différentes, mais il n'hésite pas non plus à donner sa préférence. Et c'est le cas concernant l'identité de Darius ici. Et permettez-moi de vous lire brièvement le paragraphe qui traite de ce passage-là dans Daniel 9, verset 1. Et je vous cite maintenant le commentaire biblique du chercheur qui nous dit ceci. Darius fut nommé par Cyrus pour gouverner Babylone, une portion comparativement petite du grand empire médo-perse. D'après Daniel 9.1, Darius était devenu roi du royaume babylonien. Ça, c'est dans la version second NEG. La version Darby dit « fut fait roi ». Et ça va bien avec le commentaire qui suit. Ceci suggère qu'il gouvernait par nomination. Il fut fait roi et non pas par conquête, et qu'ainsi il aurait été subordonné à Cyrus, qui lui l'aurait amené à ce poste-là, Cyrus étant le grand roi de cet empire médo-perse. Je continue la citation du commentaire biblique du chercheur qui dit ceci. « La situation historique qui conduisit à cette nomination fondée sur la chronique de Nabonide, là, c'est-à-dire qu'on puise dans les ressources externes à la Bible, eh bien, c'était que Babylone a été conquise par Hugues Baru, qui était gouverneur de Gutium, qui entra dans la capitale cette fameuse nuit du banquet de Belshazzar qu'on a vu au chapitre 5 quand Babylone tombe en tant qu'empire aux mains des Mèdes et des Perses. Donc, Hugues Baru est fait gouverneur, est fait enfin roi de cette région de Babylone, la ville en particulier, au moment même de la chute de l'empire babylonien. Je continue la lecture. Après la conquête de Babylone par Hugues Baru le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ, Cyrus entra dans la cité conquise le 29 octobre de la même année, donc suivant. Et Hugues Baru fut alors nommé par Cyrus pour gouverner cette cité à sa place. 8 jours après l'arrivée de Cyrus, Hugues Baru mourut. Donc, si Darius le Mède est un autre nom pour Hugues Baru, ce qui est tout à fait possible d'après le commentaire biblique du chercheur, bien le problème serait résolu. Darius le Mède serait ce fameux gouverneur de Gutium, Hugues Baru, qui a été fait roi ou régent, si vous préférez, de Babylone ou de cette partie de l'Empire médo-perse qui était immense, évidemment. Et puis quand on lit qu'au chapitre 5, verset 31, que Darius avait 62 ans quand il prit Babylone, eh bien le fait qu'il soit mort seulement quelque temps auparavant, ce ne serait pas une situation anormale, c'est tout à fait plausible, voire même possible. Le commentaire biblique du chercheur offre 3 autres explications possibles, mais donne sa préférence à cette interprétation-ci qui, oui, respecte le contexte immédiat, respecte également aussi ce qu'on voit de Darius dans le livre de Daniel ailleurs, mais aussi tient compte des découvertes archéologiques et des informations historiques qu'on trouve dans les documents extra-bibliques. Donc, je trouve qu'il y a quand même du sens là-dessus. Qui suis-je pour dire c'est celle-là qui est la bonne, mais je me range derrière l'avis du commentaire biblique du chercheur que c'est probablement la position ou l'interprétation, disons, qui est la plus cohérente avec ce que nous avons comme données jusqu'aujourd'hui. Juste une précision sur la fin du verset 1, il est question du royaume des Chaldéens, c'est simplement une autre façon de dire le royaume babylonien. Les Chaldéens étaient apparemment la race dominante ou le groupe ethnique dominant à Babylone à cette époque-là. Verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem était de 70 années. Ici, l'expression « les livres » est probablement une expression qui englobe tous les livres de l'Ancien Testament qui étaient déjà rédigés à cette époque-là, incluant évidemment le livre de Jérémie, mais probablement aussi le Pentateuque, ce qu'on appelle couramment chez les Juifs la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, mais probablement aussi quelques livres historiques, prophétiques et même poétiques, à l'exception, bien entendu, de tous les autres livres qui ont été écrits après la période de Daniel, après l'exil d'une façon particulière, c'est-à-dire les livres de Esdras, Néhémie, Esther, les chroniques et aussi les livres des prophètes Agé, Zacharie et Malachie. Donc, ces ouvrages-là qui sont post-exiliques, écrits après la période de l'exil, étaient certainement inconnus, évidemment, à Daniel à cette époque. Mais tout le reste était possiblement entre ses mains, disons, il avait accès à plus qu'un ouvrage de par l'expression « les livres ». Ceci dit, c'est la compréhension générale des commentateurs, mais il y a quand même quelques commentateurs très exégétiques qui, avec des preuves à l'appui, démontrent que parfois le pluriel peut être utilisé pour décrire un livre dans son ensemble. Donc, ça pourrait être aussi uniquement une référence au livre de Jérémie. Mais j'aime bien l'idée que Daniel ait pu avoir accès à d'autres ouvrages qui auraient pu avoir été entre ses mains ou en sa possession à Babylone même. De toute façon, il avait déjà le livre de Jérémie avec lui, donc c'est assez évident que les livres ont voyagé avec le peuple dans l'exil. Il est question donc de 70 années dans ce passage-là, même la traduction Darby traduit par 70, on comprend bien, Ça, c'est dans le livre de Jérémie d'une façon toute particulière qu'on peut voir cela au chapitre 25, versets 11 et 12, et aussi au chapitre 29, verset 10. Je vais y tourner pour les lire les textes parce que franchement, c'est les textes principaux qui concernent ce dont on est en train de parler. Donc, je me rends dans Jérémie 25 et au verset 11, on lit ceci. « Et tout ce pays sera un désert, une désolation, et ces nations serviront le roi de Babylone 70 ans. Et il arrivera, quand les 70 ans seront accomplis, que je visiterai sur le roi de Babylone et sur cette nation-là leur iniquité, dit l'Éternel, et sur le pays des Chaldéens, et je le réduirai en désolation perpétuelle. » Donc, le Seigneur a parlé de la durée de l'exil dans ce passage de Jérémie, puis à nouveau, et j'y tourne aussi, chapitre 29, verset 10, qui nous dit ceci, okay. « Car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai, j'accomplirai envers vous ma bonne parole pour vous faire revenir en ce lieu. Oh, » c'est clair, c'est direct dans ce dernier passage de Jérémie d'une façon particulière. La question qui peut nous venir à l'esprit quand on lit ça, c'est pourquoi 70 ans ou 70 ans d'exil? Pourquoi? Eh bien, c'est en raison, d'après un texte qu'on voit dans les Chroniques, au chapitre 36, les versets 20 et 21, c'est en raison du non-respect de la loi concernant le repos de la terre. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 25 et aussi au chapitre suivant, 26, il y a, dans le contexte de l'Alliance mosaïque, des prescriptions claires concernant le repos de la terre. Donc, après 6 ans d'exploitation de la terre, la 7e année devait être ce qu'on appelait un repos de sabbat pour la terre. Et ces repos-là ou ces années sabbatiques-là n'ont apparemment pas été respectés dans l'histoire d'Israël. En fait, je pense que c'est clair pour tout croyant qui lit l'Ancien Testament que dès qu'on quitte le Sinaï, qu'on se prépare à entrer en Canaan après ces 40 ans d'errance dans le désert, je veux dire, la loi dans ses principes les plus fondamentaux n'est pas respectée et ne l'a pratiquement jamais été, enfin, à part quelques efforts de zèle, de réformes religieuses momentanées à travers l'histoire d'Israël, mais c'est vrai qu'on constate cette désobéissance majeure, constante, presque totale à travers tout l'Ancien Testament. Et je crois personnellement que c'est une des raisons pour lesquelles il y aura pendant le royaume messianique, pendant 1000 ans, un Israël ethnique régénéré qui servira Dieu dans un temple avec des sacrifices sanglants pour enfin faire ce qu'ils n'ont jamais fait correctement. J'en suis convaincu de ça. Pour moi, c'est la raison des chapitres 40 à 48 du livre d'Ézéchiel. Eh bien, c'est ce qu'on voit, c'est que Israël n'a pas respecté entre autres, ben, toutes les lois, ou presque, mais aussi cette loi de repos de la terre, et puis c'est ce qu'on voit dans Lévitique 25 et 26, eh bien, d'après Esdras, quand il nous raconte à nouveau l'histoire d'Israël, mais d'un point de vue sacerdotal, surtout dans les livres des Chroniques, eh bien, 2 Chroniques 36, versets 20 et 21, nous disent que c'est à cause du non-respect de cette loi-là que cet exil a duré effectivement 70 ans. Continuons donc la lecture du chapitre 9, verset 3. « Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour le rechercher par la prière et la supplication dans le jeûne et le sac et la cendre. » Vous savez, c'est une prière remarquable qu'on va voir ici dans ce chapitre 9 de Daniel. Et c'est remarquable qu'on trouve 3 livres post-exilique, incluant, disons, celui de Daniel, et qui comporte chacun un chapitre 9 dans lequel on trouve une prière aussi remarquable. Donc, 3 prières dans 3 chapitres 9 de 3 livres post-exilique. Dans l'ordre chronologique, Daniel 9, ensuite Esdras 9, et puis Néhémie 9. Dans ces 3 chapitres 9, on a une prière remarquable par des leaders spirituels qui sont des hommes de Dieu, repentant et humble et prêt à recevoir la correction du Seigneur et puis son enseignement, ses instructions. Ça, faut vraiment noter ça parce que, voilà, ils sont des modèles de leaders, ces 3 hommes-là, Daniel, Esdras et Néhémie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne sa face vers le Seigneur Dieu. La plupart des commentateurs pensent que c'est un regard directement vers le ciel plutôt que tourner vers l'est, vers la ville de Jérusalem, comme aussi on pourrait le comprendre. Mais il tourne sa face vers le Seigneur. Pourquoi? Pour le rechercher. Et le verbe en hébreu ici comporte le sens de consulter, pour aller parler avec son Dieu, pour connaître son cœur et sa pensée. Il cherche le Seigneur. Et quand on cherche le Seigneur, c'est parce qu'on désire la communion avec lui et on veut qu'il se révèle à nous et qu'il nous parle. Et c'est ce que Daniel aspirait. Alors, il va le faire par la prière et la supplication. La prière, c'est le mot général qui décrit simplement le concept de parler à Dieu ou parler avec Dieu. Mais la supplication ici, c'est un appel à sa miséricorde, à sa pitié, à sa compassion. Donc, dans l'idée de supplier, hein, on a la notion d'insister. Et puis, il y a un sentiment de je dirais pas de tristesse, mais de solennité, oui, il réalise toute la situation. Et puis, voilà, il est devant son Sauveur. Il insiste, il supplie et il appelle la compassion du Seigneur. Il le fait accompagné de jeûne, qui n'est pas une prescription dans la loi mosaïque, mais que c'est une réaction, je dirais, spontanée, volontaire, et qui exprime l'humiliation, qui exprime aussi, bien entendu, le renoncement à des besoins fondamentaux, puisqu'on est prêt même à ne pas manger pour se consacrer entièrement à ce moment de prière. Et c'est ce que Daniel fait ici. Il le fait encore accompagné du sac et de la cendre. C'est intéressant quand même parce que c'est une tenue visible, mais je ne pense pas que Daniel ait porté un sac et se soit couvert la tête de cendre pour faire cela devant des hommes. Il le fait devant Dieu. Quelle est la nécessité de faire un geste comme celui-là devant Dieu? Eh bien, c'est une manière même extérieure. Alors, son cœur est déjà dans la repentance et l'humiliation, mais même son extérieur témoigne de cette attitude de cœur devant Dieu. Cela parle d'humiliation aussi, de tristesse devant le Seigneur. Et sérieusement, franchement, moi, j'aime à penser qu'il ne fait pas ça devant les hommes, mais c'est vraiment devant Dieu. Et il s'est préparé pour ça quelque part aussi. Je crois que c'est littéral, enfin, il n'y a rien qui m'indique que ce serait juste symbolique, mais il a fait il a pris cette décision, il a pris cet habit de deuil, de tristesse, de repentance pour démontrer même au Seigneur, qui voit tout, c'est vrai, qui voit le cœur, mais il a voulu quand même se présenter devant le Seigneur sous ses yeux de cette façon-là. Quel homme humble, hein, quand on y pense, je veux dire, Daniel, c'est un homme élevé dans le gouvernement babylonien, puis ensuite, bien sûr, chez les Médo-Perses aussi, puis ouais, un homme respecté, hein, un des plus grands sages, on dit de lui, regardez-le s'abaisser, s'humilier, quel modèle pour nous, qui que nous soyons. Verset 4. Et je priai l'Éternel, mon Dieu, et je fis ma confession, et je dis, je te supplie, Seigneur, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui garde tes commandements. Remarquez bien qu'il y a un petit astérisque là devant le nom Dieu dans ce passage-ci. J'ai vérifié dans la traduction d'Arbi, dans l'introduction où on explique les abréviations, de quoi il s'agit. Puis quand on voit ce symbole-là, il y a d'autres formes d'astérix ailleurs, mais astérisque, mais quand on voit ici ce genre de petite étoile, eh bien, c'est pour indiquer que le nom en hébreu est un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'il y a El, Eloah et Elohim, qui sont tous des noms apparentés, mais qui sont exprimés différemment en hébreu, mais ça signifie exactement la même chose. Principalement. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette petite étoile-là. Je voulais juste donner cette petite explication que vous trouverez facilement dans les abréviations, dans l'introduction de la Bible d'Arbi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient devant Dieu pour prier et faire une confession. Et partout dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, confession a le sens d'avouer quelque chose, d'être d'accord avec Dieu sur une condition que lui voit vraiment. Donc, si Dieu voit la chose telle qu'il la voit, faut être d'accord avec lui. C'est de là que vient homologeo, par exemple, en grec, qui veut dire être d'accord ou dire la même chose que. eh bien, on dit comme lui, puis on vient dans la repentance, c'est la meilleure chose à faire. C'est ce que Daniel fait ici. Et il dit dans sa prière que le Seigneur est un Dieu grand et terrible, dans le sens d'élevé au-dessus de tout et qui doit être craint. Il est terrible dans le sens qu'il suscite dans le cœur de celui qui s'en approche la crainte, parce que Dieu est élevé, Dieu est au-dessus de nous. Comme il est dit d'ailleurs dans la Bible, il est dans le ciel et toi sur la terre. Hein? Il est au-dessus de tout. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu fidèle. Là, on voit un homme, oui, Daniel, on peut dire dans l'ensemble, hein, un homme fidèle, mais c'est quand même un homme pécheur. Et puis d'ailleurs, il n'hésite pas à s'identifier comme tel hein, dans sa prière. Et puis, Daniel se présente devant un Dieu qui est parfait, qui est bon et qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qu'il aime et qui garde ses commandements. Le mot « alliance » ici, est-ce qu'il pointe vers une alliance en particulier? C'est bien dit qu'il garde l'alliance au singulier. C'est probablement l'alliance mosaïque dont il est question, surtout dans un contexte où Daniel est amené à reconnaître que Israël ne reconnaît pas du tout, ne garde pas du tout l'alliance. Et c'est précisément pour ça qu'ils se sont retrouvés en exil d'ailleurs, parce qu'ils ont été infidèles à l'alliance. Mais Dieu, lui, est fidèle, il garde son alliance. Mais c'est peut-être aussi une façon simplement de parler de l'ensemble des alliances, ce qui inclurait même l'alliance noachique avec Noé, l'alliance abrahamique, l'alliance du pays, aussi l'alliance davidique, l'alliance mosaïque et aussi la nouvelle alliance qui était déjà une alliance du passé du point de vue chronologique puisque Jérémie l'avait déjà prophétisé au moins 70 ans auparavant dans la prophétie de son livre au chapitre 31. Donc peut-être que quand Daniel dit que c'est un Dieu qui garde l'alliance, soit l'ensemble des alliances ou plus spécifiquement cette alliance mosaïque, lui de son côté, Dieu la garde alors que les Israélites, eux, l'avait pas gardé. Quoi qu'il en soit, ça met l'accent sur la fidélité de Dieu et qui tient ses promesses. Mais il parle aussi de la bonté de Dieu. Là, on a un mot en hébreu que c'est impossible de traduire par un seul mot. OK, Darby a choisi bonté ici. Ça aurait pu être fidélité, ça aurait pu être amour, ça aurait pu être beaucoup de choses. Le mot hébreu, c'est « chesed ». Et ce mot-là, il est tellement riche de sens que c'est impossible de saisir tout le concept puis de le mettre dans un seul mot. Et même personnellement, je trouve que « bonté », c'est trop faible. Bien sûr, si on dit « ben écoute, c'est la bonté de Dieu », OK, d'accord, le concept s'élargit. Mais j'aime quand même plutôt d'autres expressions comme en anglais, on dit « faithful love », l'amour fidèle de Dieu. Ou ça serait une façon d'essayer de rendre que Dieu est fidèle dans un contexte d'alliance et parce qu'il est fidèle à son côté d'alliance, il est bon, il est compatissant et il aime ceux avec qui il fait alliance malgré tous leurs défauts, malgré leurs péchés. C'est un mot trop riche, trop puissant pour être limité à un seul concept moral, même si c'est celui de la bonté en lien avec Dieu. Évidemment, c'est pas évident de voir ça en français parce que les traductions varient, mais justement, si vous utilisez la comparaison des versions, vous prenez quelques versions, vous regardez comment le deuxième mot dans la phrase a été traduit, donc on parle bien sont où les deux mots? Bon, qui garde l'alliance et la bonté, donc alliance, la plupart vont le rendre de cette façon-là, mais bonté, ça va différer quand même pas mal. Et puis, quand on considère comment ça a été traduit, ça va mettre en valeur quelque part cette richesse profonde qu'on trouve dans ce mot-là. Chesed, quand moi je le vois dans le texte en hébreu, je pense à la fidélité de Dieu, à ses alliances, malgré l'infidélité de l'homme. C'est comme ça que je vois vraiment ce mot-là. Et bien sûr, ça inclut tout le concept d'amour, de bonté de la part du Seigneur. OK, peut-être... Oui, ceux qui gardent, juste un petit commentaire avant de laisser la parole parce qu'il y a peut-être déjà des questions, mais au verset 4 à la fin, il dit que cette fidélité-là, dans le fond, de garder l'alliance et la bonté, elle est envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, mais franchement, tout le peuple d'Israël est coupable, puis on le voit plus tard dans la prière, même Daniel s'identifie comme coupable de ne ne pas l'avoir aimé quelque part, de pas avoir gardé ses commandements. Mais en réalité, cette expression-là, je pense qu'elle exprime l'assurance que Daniel a dans la fidélité de Dieu. Oui, le peuple de Dieu a dit, oui, nous aimons le Seigneur, nous voulons le servir, ça n'a pas tenu. Ça, c'était au Sinaï, hein? Et puis, ça n'a pas tenu longtemps, et puis, paf, le peuple est tombé dans la désobéissance, l'idolâtrie, c'est terrible. Mais en disant cela de cette façon, ça exprime probablement l'assurance que Daniel a envers le Dieu qui garde, lui, ses promesses et son alliance et sa bonté. Mais c'est aussi une phrase qui rappelle que la caractéristique principale de ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont mis au bénéfice de cette alliance-là, de cette bonté-là, devraient l'aimer et garder sa parole, franchement. Donc, c'est un texte qui nous parle, ça. Moi, c'est cette fin de verset-là me dit, « Seigneur, c'est ça qui devrait être la caractéristique de ma propre vie, t'aimer et garder tes commandements. » D'ailleurs, c'est pas ce que Jésus a dit, hein, « Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. » Nathanaël, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on devrait aller maintenant dans une période de questions?
Alors, il y a une question, cher Gilles, qui concerne en particulier le jeûne. Et puis, il y a un des participants qui se pose la question, est-ce que c'est quelque chose à pratiquer encore aujourd'hui?
Oui, pourquoi pas, d'une façon spontanée. Ça peut arriver. Vous savez, il y a des moments qui sont tellement solennels qui exigent presque qu'on se concentre entièrement sur Dieu dans la prière et le jeûne. Et c'est vrai que ben, je pense à l'image de quand, tu sais, après le dîner, là, qui n'a pas envie d'aller faire une sieste? Hein? On dirait que ça nous assomme, puis on a envie d'aller faire une sieste. Mais de ne pas manger nous garde probablement concentrés en éveil. Ça peut être aussi l'effet contraire à long terme, mais je pense que quand on voit la pratique du jeûne dans les Écritures, c'est surtout dans des moments solennels et dans des réactions spontané qui exprime justement le côté sérieux du moment où on se concentre uniquement à prier le Seigneur. Ce qui est certain, c'est que dans l'Écriture, le jeûne semble très rarement être présenté dans un contexte de commandement ou de prescription à suivre. Et c'est assez clair que la plupart des endroits où on le voit. Je dis la plupart parce qu'il y a quelques versets dans le Nouveau Testament où les manuscrits grecs plus tard ont ajouté le jeûne quand c'était peut-être même pas dans le texte original, je sais pas, mais comme pour rendre le texte plus sérieux ou liturgique, je sais pas trop. Mais en général, le jeûne, c'est quand même une pratique spontanée, une réponse du cœur immédiate à Dieu. C'est bon?
Magnifique, merci. C'était la seule question. Tu peux continuer.
Et OK, puis, merci.
Aux auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions par le QNR en bas de votre écran au milieu.
Merci. Alors là, nous allons lire les versets 5 à 10, hein, qui est la fameuse confession de Daniel. On va lire dans un bloc. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment et nous nous sommes rebellés et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances et nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos princes et à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice et à nous la confusion de face comme elle l'est aujourd'hui, aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leur infidélité par lesquelles ils ont été infidèles envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur, notre Dieu, sont les compassions et les pardons, car nous nous sommes rebellés contre lui et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour marcher selon ses lois qu'il a mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. C'est incroyable, une telle confession, puis de la part de Daniel aussi, qui s'identifie au péché de son peuple. Il ne dit pas « Israël a péché, Israël s'est révolté, Israël a fait ceci, ou ils ont fait cela, les sacrificateurs ont fait ceci. » Non, c'est nous, nous et nous, constamment. C'est remarquable quand même de le voir ainsi s'associer à Israël. Vous savez, ça me fait penser que nous, les chrétiens, on est unis au corps de l'Église. On ne devrait jamais se réjouir, loin de là, de la chute d'un croyant ou de son égarement ou de ses péchés. Non pas se réjouir, mais encore moins dire « Oh, tu vois, tant pis pour lui. Puis, il devrait toujours y avoir un sentiment de tristesse qui nous habite parce qu'on est tous membres d'un seul corps. Et Daniel, il avait ce concept-là avant même le début de l'Église, mais il avait ce concept-là déjà dans Israël. Il s'associait au peuple d'Israël à ce point-là comme un seul corps. Et c'est remarquable, ça. On voit que il se déclare coupable avec Israël de péché, d'iniquité, d'agissement méchant, de rébellion, de désobéissance, de refus d'écouter. Six choses dans lesquelles ils ont manqué et puis qu'il va répéter même pour certains d'entre eux dans ces versets 9 et 10 qu'on a vus au niveau de la rébellion, par exemple, de ne pas écouter, puis de ne pas marcher selon ses voies, etc. Et puis, c'était à tous les niveaux. Hein. Quand il parle des rois, princes, etc., ce sont tous les leaders d'Israël, quels qu'ils aient pu avoir été, que ce soit des commandants d'armée, que ce soit les directeurs de chantre, tous ceux qui étaient leaders, ils ont tous manqué. Et même, bien entendu, tout le peuple en entier. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le verset 11 qui suit, « Et tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné en n'écoutant pas ta voix. Alors ont été versés sur nous l'exécration et le serment qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui. » Daniel, il fait clairement allusion à la Torah. C'est un peu aussi un des indices qui peut nous dire qu'il avait la Torah avec lui. Mais quand on parle d'exécration, de serment ici, il s'agit des malédictions plutôt qui sont mentionnées à la fin du livre du Deutéronome, au chapitre 28, les versets 15 à 68, où l'Éternel prononce les malédictions. En fait, il promet les malédictions. Les promesses de Dieu, ce n'est pas que des bonnes choses. Hein? Parfois, Dieu menace dans ses promesses. Et il menace de malédiction tous ceux qui vont désobéir. Et voilà, c'est ce qui est arrivé à Israël. Le Seigneur a accompli pas seulement ses promesses positives, si je peux le dire comme ça, de donner de bonnes choses, mais aussi ses promesses négatives de juger, de rétribuer le méchant pour ses péchés. Et Daniel peut admettre cela sans difficulté, le reconnaît d'ailleurs. Voilà, c'est simplement que c'est nous qui sommes coupables, on l'a vu hein, avec six déclarations différentes, mais toutes rattachées ensemble. Eh bien, il dit, voilà, on est coupable et puis on méritait cette malédiction qui était annoncée par la loi. Et c'est ce qu'il souligne dans le verset suivant, au verset 12. « Et il a accompli ces paroles qu'il a prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un mal si grand que rien ne s'est fait sous tous les cieux, comme ce qui a été fait à Jérusalem. » Le Seigneur a accompli, il l'avait dit, hein, averti clairement dans le Deutéronome, qu'il allait châtier Israël en cas de désobéissance, et c'est ce qui est arrivé, puis Daniel le reconnaît. Il parle des juges qui nous jugeaient, c'est un mot général ici pour parler des leaders, ça inclut les rois, les sacrificateurs, enfin tous ceux qui étaient en position de leadership en Israël. Donc, ça les inclut tous. Ce n'est pas les juges, là, uniquement les juges, disons, de la période ainsi appelée. C'est tous les leaders d'Israël. Et puis, à la toute fin, il parle d'un mal si grand, et vous voyez comment c'est décrit, que rien ne s'est fait sous tous les cieux comme ce qui a été fait à Jérusalem. Ici, je suis convaincu personnellement que ce n'est pas une comparaison avec ce qui peut s'être produit ailleurs, avec d'autres peuples dans d'autres villes, mais c'est simplement une façon de dire que dans toute l'histoire d'Israël, on n'avait rien vu de tel, une telle destruction. Et surtout que tout ça arrive après que le peuple soit entré dans leur pays, s'y soit établi, et on avait identifié Jérusalem comme étant la ville où Dieu ferait résider son nom. Le temple avait été construit là, donc tout le culte était autour de cette partie de Jérusalem, hein, dans Juda. Eh bien, voilà, tout ça est tombé. Israël est tombé au nord, Juda est tombé au sud, Jérusalem, mais son temple, tout à fait détruit. Voilà pourquoi il utilise une expression aussi puissante, grande, en disant, ben, il n'y a rien qui s'est fait comme ça sous tous les cieux, comme ce qui a été fait à Jérusalem. Donc, ce n'est pas en comparaison de d'autres événements dans l'histoire de l'humanité avec d'autres peuples, mais c'est dans l'histoire même d'Israël. Mais tout ça était selon ce que Dieu avait averti d'avance, comme on le voit d'ailleurs dans les versets 13 et 14 qui suivent. Selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, afin de revenir de nos iniquités et de comprendre ta vérité. Et l'Éternel a veillé sur le mal et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites et nous n'avons pas écouté sa voix. Donc, c'était prévisible quelque part. C'était averti d'avance. Israël s'est détourné, le jugement est tombé, cette discipline de Dieu. Et puis, Daniel l'exprime en utilisant un idiome particulier lorsqu'il dit « l'Éternel a veillé sur le mal ». « Veiller sur le mal », c'est un idiome qui a le sens de porter attention à quelque chose. C'est juste une manière d'indiquer que Dieu a accompli ses menaces de jugement. Donc, Dieu a veillé sur le mal. Ce n'est pas qu'il est l'auteur du mal et qu'il a regardé le mal se produire. C'est une façon de dire que lui-même a accompli les menaces de jugement qui allaient amener le mal, bien sûr, en conséquence à Israël. Et Dieu y a porté attention. C'est une autre façon de nous dire ben, ce que Dieu avait averti dans Deutéronome 28, c'est arrivé. C'est arrivé parce qu'on n'a pas écouté sa voix. Ça, c'est la fin du verset 14. Maintenant, nous allons lire en bloc les versets 15 à 19. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte à main forte et qui t'es fait un nom, comme il paraît aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi méchamment. Seigneur, selon toutes tes justices, que ta colère et ta fureur se détournent, je te prie, de ta ville de Jérusalem, ta sainte montagne. Car à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications, et pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Incline ton oreille, ô mon Dieu, et écoute. Ouvre tes yeux et vois nos désolations et la ville qui est appelée de ton nom. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons devant toi nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. Quelle prière! C'est remarquable. Même je constate qu'à la lire à voix haute comme ça, c'est percutant. Surtout le verset 19, hein, « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis. » Wow, c'est remarquable, quelle prière. Je crois qu'ils ont raison, tous ceux qui font le commentaire qu'on devrait nous inspirer des prières de la Bible pour prier nous-mêmes. Et il y a quelques années, dans la réunion de la semaine chez nous, c'est souvent dans des cellules maison, et puis on fait des moments de prière ensemble et d'une courte étude biblique. Et puis on avait joint les deux ensemble. Pendant plusieurs mois, on avait fait ça. On étudiait les prières de la Bible. On regardait quel est le contexte, qui a prié, quel est le contexte de la prière, quelle est la demande dans la prière et la prière a-t-elle été répondue? Et puis, à partir de là, on essayait de tirer des modèles pour nous-mêmes, pour nous amener à prier comme les croyants dans la Bible prient. Et j'ai trouvé que c'était très profitable. Puis c'est vrai qu'on devrait apprendre à prier la Bible. C'est vraiment une bonne chose. Quand je lis cette portion de texte-là et je vois le commentaire de John MacArthur en un seul petit paragraphe, je trouve ça très intéressant, il dit ceci. Dans ce passage, donc ce sont les versets 15 à 19, Daniel pria pour une restauration à trois volets. Donc, il demanda à Dieu de rétablir la ville, de rétablir le sanctuaire et de rétablir le peuple aussi. Très intéressant quand même. C'est vrai que c'est exactement ce qu'on voit dans cette prière-là, hein? La supplication que Dieu puisse restaurer Jérusalem, la ville où il a fait habiter son nom, le sanctuaire là qui, qui était le centre de l'adoration du peuple dans cette ville, et puis le peuple lui-même, bien entendu, qui est maintenant dispersé à tous les vents, donc un peu partout sur la terre à ce moment-là. C'est effectivement ce qu'on voit là-dedans, et j'aime voir Daniel admettre au Seigneur qu'il ne vient pas devant lui parce que enfin, là, ils auraient manifesté quelque justice que ce soit, ou ils auraient eu une bonne attitude, peu importe. Non, c'est vraiment pas pour ça. Seigneur, si je viens devant toi, c'est uniquement parce que je sais que tu es bon et compatissant. Il y a pas d'autre raison que ça. J'aime bien ça dans le verset 18. Hein. C'est pas à cause de nos justices que nous nous présentons devant toi, ou nous présentons plutôt devant toi nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Verset 20 et 21. Et je parlais encore et je priais et confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et je présentais ma supplication devant l'Éternel, mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu. Donc, une référence à Jérusalem, bien entendu. Je parlais encore en priant et l'homme Gabriel que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande de gâteau du soir. Donc, ce Gabriel est le même qu'on a vu dans la vision précédente, quand il est dit la vision au commencement, ben, c'est une façon de dire la vision précédente ou celle auparavant, chapitre 8, verset 15 et suivant. Et donc, ce Gabriel vient à nouveau vers lui et c'était au moment de l'offrande du gâteau du soir. C'est vrai qu'il y a quelques interprètes qui, ils remettent constamment en question l'authenticité de l'Écriture, puis disent, ah, tu vois, c'est la preuve que ce livre-là a été écrit au moment où le temple était toujours en fonction et possiblement même un temple restauré plus tard, il y avait des offrandes de gâteaux du soir. Et donc, est-ce que en disant cela, Daniel est en train de dire qu'il y a de l'activité au temple? Mais pas du tout, parce que c'est ce que Daniel, lui, faisait comme cela se faisait à l'époque au temple. Et ça, ce genre d'offrande-là, on voit ça dans deux textes, dont Nombre 28. Donc, c'est vrai que c'était des prescriptions qui étaient données dans le contexte idéal du temple. Mais Daniel, on peut en avoir la certitude, ce qu'il pouvait offrir à Dieu et faire dans son culte et son service envers Dieu, même si c'était dans un contexte en dehors du temple, il le pratiquait. Puis, je pense que c'est le meilleur sens qu'on peut donner à ce passage-là. Ensuite, versets 22 et 23, donc ce personnage Gabriel est envoyé et il me fit comprendre et me parla et dit, « Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie et je suis venu pour te la déclarer car tu es un bien-aimé. » Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. Donc, cet ange-là parle, Gabriel parle d'une parole en particulier, la parole est sortie, et le sens du mot parole ici est un décret. Et c'est le décret de la 70e semaine de Daniel qui s'en vient là dans les versets 24 à 27. C'est ce décret-là dont il est question. Donc, quand on voit le mot « parole » ici, il a le sens de décret. D'ailleurs, c'est aussi le sens qu'on voit dans le verset 25. Si vous descendez un peu plus bas, lisez avec moi le verset 25. « Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem. » J'arrête la lecture ici. Simplement que là, il va donner une ligne chronologique des événements à suivre dans l'histoire d'Israël. Et puis, il fait allusion à la sortie d'une parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem. C'est très clair qu'il parle du décret. Maintenant, est-ce Cyrus ou Artaxerxès? Ça, c'est une autre discussion qu'on va avoir dans quelques minutes. Mais quoi qu'il en soit, c'est un décret. C'est clairement un décret pour retourner à Jérusalem et rebâtir le temple. Et donc, dans cette courte portion de texte, on a deux décrets. Celui de Dieu, qui concerne la vision elle-même des 70 semaines, et l'allusion au décret permettant aux Juifs de retourner dans Jérusalem pour rebâtir le temple. C'est important qu'on comprenne que c'est le sens du mot parole ici, donc un décret. Mais là, ce qui me frappe, remarquez à quel point ce court passage insiste sur la compréhension de la vision. C'est hallucinant tout ce qui est dit. Verset 22, faire comprendre. Et aussi dans ce verset-là, éclairer l'intelligence. Au verset 23, comprends, sois intelligent. et au verset 25, sache et comprends. Donc, on a comprendre, éclairer l'intelligence, comprendre à nouveau, sois intelligent, sache et comprends. Franchement, c'est... il me semble que en quelques versets seulement, c'est... ça dit tout. Hein? Il fallait que Daniel comprenne ce qui s'en vient. En fait, le Seigneur est en train de lui donner une chronologie de ce qui s'en vient. Et peut-être que tous les détails ne sont pas évidents et clairs, mais que ça concerne l'histoire d'Israël, ça, c'est parfaitement clair. Je m'arrête ici parce que les versets 24 à 27, je vais les traiter un petit peu plus en détail maintenant. Je pense que c'est le cœur même de ce chapitre-là. En fait, j'en suis convaincu et je voudrais m'arrêter pour donner le moment d'une pause, peut-être, soit pour des questions, juste une pause. C'est à Nata de décider.
Comme on n'a pas de questions supplémentaires, vous pouvez utiliser le temps de la pause pour poser toutes les questions qui vous brûlent encore. Et puis, je vous propose qu'on reprenne à 21h11 pour la suite du cours. Donc, bonne pause à toutes et tous.